Sœurs et frères, bonsoir. Merci aux frères François-Xavier et à la communauté de m'avoir invité. Merci à vous tous, sœurs et frères, de m'accueillir. Le frère François-Xavier m'a demandé de vous partager simplement ce que j'aime dans le Poverello. Je le ferai plus sous la forme d'un témoignage que d'un enseignement. Au moment où je m'interrogeais sur l'orientation de ma vie chrétienne, la figure de François s'est imposée à moi. Pourquoi ? À vrai dire, je ne le sais pas vraiment. Certes, je connaissais à Nice des franciscains, comme je connaissais des dominicains et des jésuites. Je n'avais pas plus de préférence, je l'avoue, pour les uns que pour les autres. Mais quand un jeune chrétien pose au Seigneur cette question fondamentale, « Seigneur, qu'attends-tu de moi ?» Qu'attends-tu de moi ? Il a besoin d'un guide, d'un ami, d'un compagnon, j'allais dire dans la communion des saints, d'un compagnon qui correspond à cette étape de sa vie et de sa recherche. François a été cet ami à tel point qu'avec un autre ami étudiant, nous voulions vivre une vie fraternelle à l'école de Saint François d'Assise. Nous ne l'avons jamais fait parce qu'à 18 ans, les choses changent vite. Mais vous voyez, 44 ans après, je m'en souviens encore. Et même si je ne suis pas devenu franciscain, désolé mes frères d'avoir mal tourné, la figure de François est entrée dans ma vie. Si je creuse aujourd'hui cet attrait de mes 18 ans pour Saint François, il y a une dimension de sa vie qui me parle. Le temps n'a pas de prise sur lui. Il est aujourd'hui comme il était avant et comme il sera demain. Il demeure toujours actuel. Et c'est peut-être cela qui me touche. Je vais le dire maladroitement, il est toujours là avec nous quand on a besoin de lui, comme un véritable ami sur qui l'on peut toujours compter avec certitude. Avec certitude. Quand je me rends à Assise, comme dernièrement dans le cadre d'un beau pèlerinage interdiocésain Perpignan-Elne-Carcassonne-Narbonne, on s'attend toujours à le voir sortir du coin d'une rue. On s'attend toujours. Ce n'est pas simplement anecdotique ce que je vous dis là, mais c'est certainement lié à la grâce, à la puissance de sa sainteté. Il est actuel parce qu'il est proche de tous, sans distinction, des plus riches aux plus pauvres. D'ailleurs, parmi ses premiers compagnons, toutes les catégories sociales de son temps sont représentées. On dit qu'un saint triste est un triste saint. En tout cas, on ne peut pas le reprocher à notre François. Ce qui me touche chez lui aussi, c'est que la pauvreté n'efface pas la joie. Au contraire, elle la porte, elle la stimule, comme si la pauvreté en était la source. J'ai déjà rencontré cela, cette joie, chez les plus pauvres, dans les favelas de Rio, où malgré leur pauvreté et leur misère, les habitants, avec une caisse et deux morceaux de bois, chantent, dansent, veulent que l'on garde d'eux la marque de leur joie. François est joyeux d'avoir épousé Dame Pauvreté. Il vit avec elle un total bonheur et cette joie est contagieuse hier, aujourd'hui et demain. Elle fait de lui cet ami dont je parlais au début, ce compagnon joyeux avec lequel on ne s'ennuie pas. Cet ami, ce compagnon dont tout le monde veut être l'ami. Quand on a rencontré Saint François dans sa vie, c'est difficile de ne pas en faire son ami. J'ai parlé d'amitié, de proximité, mais pour lui, le plus grand bonheur de sa vie, c'est le Christ. Il vit un amour radical avec lui, à la manière d'un saint Paul. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Le Christ devient le cœur de son cœur, la vie de sa vie. Il a tout pris du Christ, de sa naissance, en passant par sa parole, ses exigences, sa mort, sa résurrection, son amour préférentiel pour les pauvres, tout, tout. En toute chose, il veut ressembler à son maître, se fondre en lui. C'est le choix radical de toute sa vie. Et sa vie, toute sa vie, est ouverture permanente à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il a tout donné de lui en se dépouillant de tout à son Sauveur. Et celui-ci lui a tout donné jusqu'aux marques de sa passion. Que tous soient un, demande Jésus à son Père, comme toi tu es en moi et moi en toi. Mais je crois que François a voulu être tout dans le Christ, parce que le Christ était tout pour lui, son chemin, sa lumière, sa vérité, sa vie. Je me dis que cette présence permanente du Christ en lui, dans son regard, dans ses paroles, dans ses gestes et sa façon de vivre à François, a été attractive pour beaucoup hier, aujourd'hui et demain. Cette unité de vie entre sa propre existence et la vie du Christ en lui, cette radicalité de l'amour ne supportait pas les demi-mesures et s'exprimait dans un choix de vie radical pour le Christ, pour le trouver et le chercher encore. Cette passion Cet amour passionné pour le Christ de François m'a aidé beaucoup dans cette période de ma vie que j'évoquais au début. On ne choisit pas. On ne choisit pas de devenir prêtre, religieux, religieuse, encore moins évêque, en toutes circonstances. On choisit d'abord de suivre et d'aimer le Christ qui nous appelle à une amitié inouïe avec lui. Et notre vocation propre naît du verbe naître de cette amitié, et c'est lui qui nous donne notre vocation. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. Jésus, François l'a bien compris, nous appelle d'abord à être avec lui. Et notre vocation se façonne, grandit, s'épanouit dans cette relation d'amour vivante avec le Christ. Il nous aime d'abord. Après, on verra. Il nous aime d'abord. Le Poverello nous apprend à toujours partir et repartir du Christ, à enraciner radicalement notre vie dans la sienne, dans son amour infini. Notre première vocation, celle du baptême, c'est ça. C'est de vivre en Christ, de vivre de lui, par lui, pour lui et avec lui. Tout le reste est donné en plus. Il y a un psaume que j'aime bien. Qui exprime mieux que moi cette réalité ? Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Je ne veux pas devenir pape. Mais non, je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un tout petit enfant contre sa mère. Contre sa mère. Notre vocation, elle commence dans ce cœur à cœur entre nous et le Seigneur. Alors, avec François, les questions sont simples. Et voici celles qu'il me pose et nous pose aujourd'hui. Es-tu toujours fidèle à cet amour sans réserve que le Christ a pour toi ? Car c'est lui qui t'a aimé le premier. Est-ce que tu lui dis ta fidélité et ton amour dans ta prière comme un ami qui parle à son ami? Quel temps lui consacres-tu? Est-ce que sa présence dans ta vie compte au moment de tes choix, au moment de tes décisions? Est-ce que tu l'interroges? Que dois-je faire, Seigneur? Réponds-moi. Est-il le centre de ma vie? Ou alors c'est moi qui occupe toute la place et je lui en ai réservé une petite, un peu à la périphérie? Ce sont des questions que pourrait nous poser François, radical bien sûr, sont des questions pour le temps du carême. La mission de François, c'est d'attacher ses frères au Christ pour qu'ils deviennent le tout de leur vie. Et pour lui, il n'y a pas d'autre bonheur que lui, Jésus. Si personne ne peut se rendre aussi proche du Christ que François, lui, en tout cas, nous en montre le chemin. Le Christ rend heureux et suffit à combler une vie. Aujourd'hui, beaucoup ont tout et ne sont satisfaits de rien. Pour François, la plénitude d'une vie, c'est le Christ. François reçoit l'Évangile à l'école de la croix, qui est celle de l'amour absolu. Et la vie du pauvre d'Assise devient par elle-même un évangile vivant. Il le prêche déjà par ce qu'il est, un amoureux de Dieu. Cet évangile, par sa seule façon de vivre, il le rend accessible à tous, ouvert à tous, accueillant pour tous. Son cœur est tout brûlant de la présence du Christ et de sa parole. Et ce feu, il veut l'allumer dans tous les cœurs. La vie de François est toute transparente. La parole de Jésus la traverse sans y trouver aucun obstacle pour rejoindre le cœur des frères et des sœurs qu'il croise en chemin. François a réussi à entrer dans la confidence et dans la pensée de son Seigneur par une vie de prière, de contemplation et de méditation permanente, au point que ceux qui l'écoutent peuvent se dire « Ce n'est plus lui qui parle, mais Jésus qui parle en lui. » Et cela, voyez-vous, ce que je vous raconte devait fasciner et toucher ses contemporains de voir cette parole de feu sortir d'un corps aussi fragile. Il embrasait le monde par sa vie et son témoignage évangélique. Et cela reste toujours un défi pour notre temps. Il nous met au défi, nous aussi, d'embraser le monde par la parole de Dieu. C'est dans ce cœur à cœur avec Jésus, tel qu'il le vivait, que se développe en nous l'intelligence de la parole qui coulait comme une source de ses lèvres pour abreuver ceux qui avaient soif. C'est le rêve de tout prédicateur de vivre tellement caché dans le Christ que c'est lui qui parle par la voix de son serviteur. Et ce rêve était réalité dans la vie de François. Je l'ai évoqué tout à l'heure. La rencontre avec François était pour moi aussi synonyme de fraternité. À ma connaissance, je ne connais pas d'ermite franciscain. Je crois, mais là je m'avance un peu, que la vie de solitude et de silence, pour se laisser remplir totalement de la présence du Christ, est nécessaire. Mais pas sans la fraternité. Est-ce que François a voulu la fraternité au départ? Est-ce qu'il l'a imaginée? Est-ce qu'il l'a désirée? Ou est-ce qu'elle lui a été donnée avec les premiers frères qui ont voulu vivre comme lui la pauvreté évangélique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est difficile d'imaginer une vie franciscaine sans la fraternité. Elle est comme le creuset où se vit et se partage la vie et la spiritualité franciscaine. Je me souviens, quand étudiant, nous voulions vivre cette fraternité franciscaine inachevée. La première chose qui s'imposait à nous était la prière. Avec l'étudiant qui, curieusement, s'appelait François, cet ami étudiant, nous voulions vivre d'abord et avant tout une fraternité spirituelle. C'est parce que nous nous recevons du Christ que nous pouvons vivre ensemble. Parce que nous nous recevons frères du Christ, parce qu'il nous donne aux autres de la communauté comme frères, que nous pouvons vivre ensemble. La vie fraternelle, la vie communautaire, pardon, n'est jamais aussi fraternelle que lorsqu'on se retrouve ensemble pour prier ou pour la célébration eucharistique. C'est là que l'on fait corps avec le Christ et que se reçoit la fraternité et qu'elle peut grandir à partir de lui. Mais, chez François, cette fraternité a une dimension universelle. On apprend à être frère entre nous pour devenir frère de tous. Si l'on ne s'aime qu'entre nous, quel mérite avons-nous? Mais si notre amour fraternel nous rend frères de tous, alors nous construisons à notre échelle, dans le monde, dans notre monde, la fraternité évangélique, la fraternité du Christ, et des baptisés peuvent aussi la vivre en petite fraternité. Dans la vie fraternelle, ce que j'ai découvert plus tard comme prêtre avec des étudiants chrétiens, c'est qu'en communauté, on fait l'expérience de l'humilité. Parce que l'on se rend compte très vite que chacun n'est pas le centre, même pas le responsable. Tout le travail d'une vie fraternelle, c'est de la ramener sans cesse à son centre, qui est le Christ, le principe de son unité. Plus on s'en éloigne, et plus on se disperse, plus on se rapproche de lui, et plus cette fraternité se resserre et devient source de joie pour les autres, et source de fécondité humaine et spirituelle qui ne cesse de se répandre. Il faut que je m'arrête. Je suis bavard quand même, hein. Mais les Méditerranéens méridionaux sont bavards. Mais je vais m'arrêter. Sans toutefois passer sous silence l'amour des pauvres. Vous savez, quand le pape François a été élu, ou plus exactement, quand il sentait que les votes lui devenaient favorables, le cardinal Hubs l'a serré dans ses bras. Il l'a embrassé et lui a dit « N'oublie pas les pauvres ». La suite, c'est le pape François qui la raconte. Je le cite. « Et cette parole, dit-il, cette parole est entrée en moi. Les pauvres, les pauvres. Ensuite, poursuit-il, aussitôt en relation aux pauvres, j'ai pensé à François d'Assise. Ensuite, j'ai pensé aux guerres, alors que le scrutin se poursuivait jusqu'à la fin des votes. Et François est l'homme de la paix. Et ainsi est venu le nom dans mon cœur, François d'Assise. Et très vite, quelque temps après, le pape François a dit « Je veux une église de pauvres pour les pauvres ». Parole toute franciscaine. Chez le Poverello, l'expérience que François fait du Christ est inséparable de la rencontre avec le lépreux. Vous le savez, un jour ou plus désenchanté et désœuvré que jamais, François cherche réconfort dans la contemplation de sa douce campagne ombrienne, magnifique. Il croise un homme couvert de pustules. Deux béquilles le soutiennent, son visage est rongé, un lépreux. Son premier mouvement est de partir. Puis il tourne bride, saute à bas de son cheval et malgré l'odeur fétide, embrasse l'indigent. Lui, ce fils d'un riche marchand drapier d'Assise, à qui la vue d'un lépreux était insupportable, vient de rencontrer le Christ dans un pauvre, et plus que dans un pauvre, dans un miséreux. Ce Christ qu'il cherche confusément depuis des mois. Et il retrouve sa joie communicative et son enthousiasme qu'il va bientôt employer à servir le Seigneur des Seigneurs. Ce baiser aux lépreux l'a tourné définitivement vers Dieu. Il le dit lui-même, ce qui m'avait semblé tellement amer s'était changé pour moi en douceur, pour l'esprit et pour le corps, raconte-t-il. Chez lui, l'amour du Christ, dont il a fait l'expérience dans la rencontre avec ce miséreux, avec ce lépreux, est inséparable de l'amour pour les pauvres et du choix de sa propre pauvreté et de celle de l'ordre. Cela, bien sûr, mériterait plus de développement. Enfin, enfin, on arrive au bout. Une dernière chose qui m'a marqué chez François et que je demande tous les jours au Seigneur dans ma prière, c'est la grâce de s'émerveiller, la grâce de l'émerveillement. Avant de voir ce qui ne va pas, Seigneur, donne-moi la grâce de voir ce qui est beau. Est-ce que vous le demandez, vous, au Seigneur, dans votre prière, ça? Eh bien, sinon, demandez-lui ce soir et demain matin et tout le temps. Seigneur, avant de voir ce qui ne voit pas, donne-moi à voir ce qui est beau, digne de louange. François, c'est l'émerveillement permanent devant la création, bien sûr, devant le Créateur et devant toutes les créatures. Tout lui parle de Dieu. Il voit la beauté du Créateur en toute chose et il le loue parce qu'il est présent, ce Créateur, dans toutes ses œuvres. Alors, cet émerveillement, bien sûr, se traduit dans le cantique des créatures. Et justement, dans son attente jubilante de la rencontre avec Dieu au moment de sa mort, François demande qu'on le chante. Jusqu'au bout, François vivra dans l'émerveillement et il mourra émerveillé. C'est ce que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres, que nous mourions émerveillés comme lui. Et je voudrais laisser la parole à un prêtre qui a beaucoup marqué nos générations et qui a écrit un ouvrage extraordinaire qui s'appelle « Émerveillement et pauvreté », le père Maurice Zundel. C'est lui qui aura le dernier mot et non pas moi. Je voudrais vous laisser avec cette belle parole justement sur ce que je viens d'évoquer. Voici ce qu'il dit par rapport à François. « La terre, François l'aime. Il l'aime infiniment. Et c'est parce qu'il l'aime infiniment qu'il n'a jamais voulu la posséder. On ne met pas dans sa poche ce qu'on aime, on le met dans son cœur. C'est parce qu'il aime la terre, c'est parce qu'il aime toute la création qu'il veut la presser une dernière fois contre son cœur et la couvrir de toutes ses bénédictions. Il veut entendre chanter ce cantique des créatures où chacune est une note de lumière dans l'offrande de sa joie. Non pas quitter le monde, non pas le repousser ou le fuir, mais l'aimer. l'aimer infiniment, l'aimer comme Dieu l'aime, pour qu'il devienne le vrai monde, pour qu'il devienne la beauté, l'ostensoir de la tendresse infinie. Il n'y a plus de dualité entre la chair et l'esprit, ni entre la terre et le ciel, ni entre le temps et l'éternité, ni entre le visible et l'invisible. Tout cela est un, un dans la présence unique qui est la vie de notre vie. Amen.